creciente con la que el hombre que hombre se luce decentemente. Alberto dijo, me llamo, contestó lindo sonido, mas para llamarse Alberto hay que ser bien advertido.
C'était Violeta Parra. Je vous propose une deuxième chanson de Violeta Parra, cette chilienne d'Amérique du Sud.
En la prisión de la ansiedad, medité un astro en alta voz y me se agita como león, como queriéndose escapar. ¿De dónde viene su corcel con ese brillo abrumador? Parece falso el arrebol que se desprende de su ser. Viene del reino de Satán, toda su sangre respondió. Quemas el árbol del amor, deja cenizas al pasar. Fue prisionero del placer y siervo de la vanidad. Busca la luz de la verdad, mas la mentira está a sus pies. Gloria le tiende terca red y le aprisiona el corazón. En los silencios de su voz, él se va ahogando sin querer. La candileja artificial le ha encandilado la razón. Dale tu mano, amigo sol, en su tremenda oscuridad. Es lo que canta, digo yo, no se consigue responder. Van a la abeja sin su miel, van a la voz sin segador. Es el dinero alguna luz para los ojos que no ven. 30 denarios y una cruz, responde el eco de Israel. ¿De dónde viene tu mentir y a dónde empieza tu verdad? Parece broma tu mirar, llanto parece tu reír. Su conciencia dijo al fin, cántale al hombre en su dolor, en su miseria y su sudor, y en su motivo de existir. Cuando del fondo de su ser, entendimiento así le habló, un vino nuevo le endulzó las amarguras de su hiel. Hoy es su canto un asadón, que le abre surcos al vivir, a la justicia en su raíz, y a los raudales de su voz. En su divina comprensión, luces brotaban del canto.
Violeta Parra. Dieu créa la terre des Indiens, et c'est comme s'il avait déployé une grande couverture. Il mit les Indiens dessus, ils furent créés ici, parole d'honneur. Et cela se passa au temps où cette rivière commença à couler. Puis Dieu créa les poissons de cette rivière et mit des daims dans les montagnes et fit des lois qui permirent aux poissons et aux gibiers de proliférer. Ensuite, le Créateur nous donna à nous Indiens la vie. Nous allâmes et aussitôt que nous avons vu le poisson et le gibier, nous avons su qu'ils étaient faits pour nous. Dieu a fait les racines et les baies pour que les femmes les ramassent et les Indiens ont cru et multiplié en un peuple. Lorsque nous avons été créés, une terre nous a été donnée pour y vivre. Et depuis ce temps, tels ont été nos droits. Tout ceci est vrai. Nous avions le poisson avant la venue des missionnaires, avant la venue de l'homme blanc. Nous avons été placés ici par le Créateur et tels ont été nos droits, aussi bien, aussi loin que remonte ma mémoire, jusqu'à mon grand-père. Ce fut la nourriture dont nous nourrissions. Ma mère ramassait les baies, mon père pêchait et tuait le gibier. Ces paroles sont les miennes, elles sont sincères. Ma force vient du poisson, mon sang vient du poisson, des racines et des baies. Le poisson et le gibier sont l'essence de ma vie. Je n'ai pas été amenée d'un pays étranger et je ne suis pas venue ici. J'étais placée ici par le Créateur. Nous n'avions ni bétail, ni porc, ni céréales, seulement des baies, des racines, du gibier et du poisson. Nous n'avions jamais pensé que nous pourrions être inquiétés à propos de ces choses. Et je vous le dis, mon peuple, et je le crois, ce n'est pas mal à nous de prendre cette nourriture. Au début de chaque saison, j'élève mon cœur en remerciant le Créateur de sa générosité pour la venue de cette nourriture. Je veux que ce traité, aujourd'hui signé, montre aux fonctionnaires quels étaient nos droits de pêche. J'étais au conseil de Walla Walla avec mon père, qui fut l'un des chefs qui signèrent le traité. Je me souviens très bien d'avoir entendu les discours au sujet du traité. Il y a plus d'Indiens à Walla Walla qu'ils ne s'en étaient jamais réunis dans un autre endroit de ce pays. C'était en 1859. Il y avait plus d'Indiens que partout, nulle part dans ce pays. À côté des femmes et des enfants, il y avait 2000 guerriers indiens. Et ils furent là pendant près d'une lune, à cette même époque de l'année, en mai et en juin. Les Indiens et les commissaires discutèrent pendant plusieurs jours de ce traité. Un jour, le gouverneur Stephens lut ce qu'il avait écrit et un des interprètes l'expliqua aux Indiens. Après que tous eurent parlé et que Poupou Mox Mox eut parlé, le général Stephens voulut entendre le grand chef des Yakimas. Il dit « Kamiakan, le grand chef des Yakimas, n'a pas parlé du tout. On n'a pas entendu la voix de son peuple aujourd'hui. Il n'a pas peur de parler, qu'il parle donc. » Le bruit courait que de plus en plus de Blancs arrivaient dans le pays des Indiens et que les Indiens seraient expulsés de leurs terres de chasse et de leurs points de pêche. À quoi le gouverneur avait répondu aux Indiens que lorsque les hommes Blancs viendraient ici, les droits des Indiens seraient protégés. Le chef Kamiakan des Yakimas dit alors « Je crains que les hommes Blancs ne disent pas la vérité, que leurs enfants ne fassent pas ce qui est juste pour nos enfants. » Qu'ils ne fassent pas ce que vous avez promis pour eux. Lorsque le continent nord-américain était encore très jeune et que les animaux sauvages et les noirs mystères habitaient encore dans les bois et dans les plaines et dans les montagnes, eh bien les femmes se réunissaient d'habitude entre elles pour pratiquer le rituel de la naissance. Lorsqu'il y avait, par exemple, des douleurs inhabituelles, un travail difficile avant la naissance, ou lorsque le temps était bon pour certaines cérémonies, eh bien, parfois, on appelait l'homme médecine pour qu'il fasse soit des potions spéciales ou qu'il chante une incantation particulière. Mais en général, les hommes étaient tout à fait des participants non fréquents à de telles histoires, aux rites qui étaient autour de la naissance. C'était les femmes qui pratiquaient ces cérémonies et qui devaient pratiquer ces cérémonies, qui préparait l'enfant pour la vie et qui lui donnait son statut d'individuel. Alors, ces devoirs étaient très souvent pratiqués comme étant tout à fait des choses communes, mais elles avaient une signification très importante pour chacun, et chaque nouvelle naissance avait un rituel particulier. Et ces rituels étaient quelque chose de très habituel et très élémentaire dans l'existence des femmes dans les débuts de ce que nous connaissons, les débuts de l'Amérique du Nord. Alors, être une mère et avoir une grande famille était le but final pour toute femme dans les sociétés amérindiennes du Nord. Il n'y avait strictement pas de doute sur le rôle que la femme devait remplir, et il y avait très peu d'autres rôles en quelque sorte qui étaient acceptés pour l'existence féminine. Beaucoup de femmes indiennes ont obtenu des distinctions, par exemple, surtout en tant que femmes artistes ou artisanes, parfois en tant que femmes médecine pratiquant la médecine traditionnelle. Mais quoi qu'elles fassent, quelques buts particuliers qu'elles aient réussi à atteindre, cela n'affectait jamais leur rôle en tant que femmes portant et élevant les enfants. Alors, la vie des femmes se déroulait ainsi, en quelque sorte d'une sorte naturel de déroulement naturel de l'univers. La mère terre, ça c'est une notion très importante parmi les civilisations indiennes, était très féconde. Tout le monde reconnaissait la force de fécondité de la terre et qui se remplissait constamment dans un cycle rond et qui allait de la naissance à la maturité, à la mort et à la renaissance. Et les toutes premières femmes qui ont vécu sur ce continent se considéraient elles-mêmes comme partie intégrante de ce cycle, si je puis dire, et elles acceptaient avec grande joie le rôle qui était le leur et qui était une sorte de l'extension du rôle spirituel de la terre et qui était vraiment la clé de la continuation de leur race en lien avec la terre. Et dans les textes que je vous ai lus tout à l'heure, qui sont des discours prononcés par différents chefs indiens lors de signature de traité avec les Blancs, eh bien, on sent la force de la terre dont ils sont issus et qui n'ont pas venu d'ailleurs, comme il le disait tout à l'heure. Alors, les sentiments religieux très très profonds qui sont attachés à la terre étaient en fait faisaient que beaucoup d'enfants existaient dans les familles. Il y avait des grandes familles parce que, bien sûr, on avait besoin d'aide pour le travail, pour la survie, mais aussi pour s'occuper des parents lorsqu'ils devenaient vieux. Et comme on le dit aujourd'hui, par exemple, pour les enfants, les familles du tiers-monde, mais à cette époque, dans des jours où peut-être les choses étaient plus simples, eh bien, les enfants étaient vraiment, en quelque sorte, l'économie des coûts des familles et l'assurance en quelque sorte pour les familles. Alors les femmes américaines du Nord, amérindiennes, savaient très très tôt comment elles tombaient enceintes. Ça n'était, semble-t-il, un mystère pour personne, bien que, suivant les régions, les croyances variaient un petit peu en ce qui concerne les détails. Par exemple, dans les tribus qu'on appelle les gros ventres, c'est étonnant cette appellation, non, qui se situent dans le Montana, donc les régions du Nord ouest des États-Unis, et aussi chez les Apaches du sud de l'Arizona, eh bien, parmi ces groupes, on croyait que tomber enceinte ne pouvait pas arriver après une seule relation sexuelle. Une femme Apache expliquait que si un couple a des relations sexuelles 3 fois par semaine, eh bien, il pouvait avoir un enfant, et seulement à partir de 2 ou 3 mois. Cette même femme Apache disait qu'elle connaissait une fille qui avait une relation sexuelle avec un homme plusieurs fois en une seule nuit et qu'elle reconnaissait que si la femme avait des relations sexuelles à ce rythme-là, eh bien, ça irait très bien et on n'y aurait pas besoin de plus de temps pour avoir un enfant qui commencerait à se former dans le ventre de la mère. Une autre femme Apache rapporte que lorsqu'un homme a des relations sexuelles avec une femme de son... Lorsqu'un homme a une relation sexuelle avec une femme, un peu de son sang, mais en fait, c'est bien sûr de sa semence, entre en elle. Et juste lorsqu'un petit peu rentre en elle la première fois, ça ne suffit pas et pour que la femme puisse avoir un enfant, parce que l'enfant ne peut pas commencer à se développer simplement parce que le sang de la femme se bat contre celui de l'homme. Donc l'idée est que jusqu'à ce que le sang de la femme soit dominé en quantité par la semence de l'homme, eh bien il ne peut y avoir d'enfant parce que le sang de la femme se bat contre l'idée d'avoir un enfant. Il y a aussi, bien que plusieurs histoires se racontent à propos de la sexualité, et on croyait, entre autres, que toutes ces croyances, en fait, les femmes ne remarquaient tout de suite les premiers signes de la grossesse. Et pour certaines d'entre elles, elles croyaient qu'elles devaient, comme par exemple certaines femmes apaches, croyaient qu'elles devaient absolument cesser toute activité sexuelle pour éviter de blesser leur enfant qui se développait à l'intérieur d'elles. Mais les femmes Hopi, par exemple, du nord de l'Arizona, elles croyaient au contraire, étaient convaincues qu'il fallait absolument continuer à avoir des relations sexuelles parce que c'était bon à la fois pour la mère et l'enfant. Une femme qui dort avec son mari tout le long de sa grossesse, afin qu'ils aient encore des relations sexuelles, cela permettait à l'enfant de grandir. Et comme le dit très joliment une femme Hopi, un peu dans cette même région des États-Unis, eh bien, avoir des relations sexuelles, c'était un petit peu comme arroser une petite graine. Et si un homme commençait à faire un enfant et s'arrêtait tout à coup, eh bien, sa femme allait avoir un temps très mauvais pour faire grandir, croître son enfant. Les Indiennes Cascades du nord-ouest du Canada, elles pensaient aussi qu'il fallait absolument avoir des relations sexuelles répétées pendant le début de la grossesse pour développer l'embryon. Mais elles mettaient en garde contre le fait que si on avait trop de relations sexuelles, eh bien, on allait avoir des jumeaux. Et ça, il faut reconnaître qu'avoir des jumeaux n'était pas une chose particulièrement bien reçue par les familles indiennes. Les mères qui essayaient de donner des conseils à leurs filles qui étaient enceintes leur disaient que parfois il fallait qu'elles utilisent leur propre couverture, signifiait qu'elles dorment donc en face de l'autre côté du tipi de leur mari et qu'elles devaient éviter d'avoir des tentations pour celles qui pensaient qu'il fallait absolument arrêter les relations sexuelles pendant la grossesse. Alors parmi la plupart des tribus, en fait, on constate que cependant les femmes enceintes continuaient à avoir une vie sexuelle modérée jusqu'au même aux dernières étapes de la grossesse, comme la plupart d'ailleurs des femmes le font aujourd'hui. Il y avait de très très rares tribus qui avaient pour coutume d'interdire complètement les relations sexuelles durant la grossesse. Et par exemple, dans la région du Wisconsin, dans les tribus Fox, eh bien c'était le cas, parce qu'on pensait que l'enfant allait naître sale si la mère avait eu des relations sexuelles pendant la grossesse. Et on retrouve cette même idée dans des tribus qui se trouvaient près de la rivière Colorado, lorsqu'elle se jette dans le golfe de Californie, où les femmes Kokopa croyaient que si elles ne dormaient pas seules, eh bien leurs enfants allaient naître avec des pieds beaux. Quelle horreur! Voilà, alors je propose de m'arrêter aujourd'hui ici dans le livre de Caroline Nithammer qui évoque ces filles de la Terre. Nous continuerons, non pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est notre rendez-vous mensuel avec Evelyne Merlard et Annette Zimmerman, nos amis de la librairie L'Inédite, qui, si cela vous intéresse, viendront nous parler d'une biographie nouvelle, semble-t-il, écrite à propos de... Ça y est, j'oublie son nom. Je retrouverai, je vous dirai tout de suite. Ça me reviendra de temps à autre comme ça, quand on veut dire quelque chose, juste le mot vous manque. Et nous retrouverons les femmes indiennes dans 15 jours, où je vous proposerai d'autres... la suite de la vie des femmes, comment avoir un garçon ou une fille et quels sont les premiers soins que proposent les femmes indiennes à leurs enfants. Et puis nous continuerons ensuite pour parler de contraception. Est-ce que les femmes indiennes pratiquaient et pratiquent toujours la contraception, avec toutes les cérémonies qui tournent autour de la naissance des enfants. Et puis j'espère avoir rencontré dans cette fameuse semaine dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ces jours consacrés du 18 au 22 février à Belle Usine, à Carouge, à Genève, 23 Place d'Armes, sur le thème 1492-1992, 500 ans de résistance amérindienne. J'espère avoir rencontré des gens qui proviennent de ces différentes régions d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud, comme vous pouvez le faire d'ailleurs, vous-même, en venant participer aux différentes manifestations. Je vous dis rapidement qu'est-ce que vous pourrez voir. Le mardi 18, eh bien, c'est l'ouverture des festivités à 18h. Il y aura tout au long de cette semaine-là une exposition de peintures et d'objets et de costumes amérindiens, entre autres des lithographies de la collection Bodmer. Et puis, chaque soir, à 20h, un film, suivi ensuite d'un débat avec différents invités lors de ce débat. Et tous les débats animés par Radiozone, qui vous seront très ultérieurement reproposés sur les ondes de Radiozone. Mais je crois que ce serait bien que vous veniez y participer en direct. Alors, le mardi, c'est un film sur les indiens montagnais du Canada, qui s'appelle « C'est notre terre ». Et à la suite de ce film, à 21h, un débat avec la présidente de l'Association pour la sauvegarde des nations amérindiennes et avec des délégués amérindiens à l'ONU qui seront présents lors de ce débat. Le mercredi 19, le film « Terrain de chasse » qui est sur la conversion forcée des Indiens Guarani du Paraguay, avec à 21h une table ronde avec un ethnologue, José Marin, et Paul Lambert, cinéaste ethnographe connu. Le jeudi 20, eh bien, la journée particulière de 14h à 19h, une après-midi, organisée pour les enfants avec contes et légendes et des concours de dessin et des jeux des Indiens du Canada. À 17h-19h, vous retrouverez peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est Pierrette Biro, qui connaît bien, vous le savez, les Indiens Yanomami de l'Amazonie brésilienne. Et à 20h, un débat avec un ethnologue, Jérémy Narby, qui survole 500 ans d'histoire d'un point de vue amérindien. Il y aura aussi divers représentants amérindiens. Je vous rappelle que cette semaine, qui se termine vendredi et samedi par une grande fête, un concert de la musique et de la danse des peuples indiens Yamara et Quechua, ça c'est vendredi, et puis samedi, un concert avec le groupe Intilai. Et puis, soirée dansante. Donc, toute cette semaine est organisée à la fois par l'ASNA, Association de soutien aux nations amérindiennes, et puis par d'autres associations, et le tout patronné par Radiozone, qui animera les différents débats et qui vous retransmettra ultérieurement tous ces débats. Alors, une semaine sur le thème 500 ans de résistance amérindienne, du 18 au 22 février à Belle Usine, Genève, 23 Place d'Armes. Et je vous propose, comme je vous le disais au tout début de cette émission, de conclure avec une autre chanson du disque No Woman's Land de Mama Bea Tekielski pour terminer cette émission. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Pouvoir faire, nous sommes nos.
Oh,
Woman's Land, le dernier disque de Mama Bea Tekielski, dont nous avons écouté deux magnifiques chansons, dont celle sur le titre No Woman's Land. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, je commençais tout juste le magnifique livre écrit par l'américaine Caroline Nithammer sur le titre Fille de la Terre, qui évoque les femmes amérindiennes du Nord. Et puis des extraits de textes, cette fois-ci des textes d'hommes. J'ai cherché, je n'ai trouvé aucun texte de femme dans ce livre, mais je pense que les femmes étaient effectivement pas très présente lors des traités et des relations avec les hommes blancs, puisque tous ces textes sont des extraits de discours tenus par les Indiens lors de leur rencontre avec les blancs, dans un livre réuni dans un livre magnifique qui s'appelle Pieds nus sur la terre sacrée, texte rassemblé par Terry McLuhan, une autre américaine qui s'est penchée sur la vie des Indiens. Alors nous continuerons l'histoire des filles de la terre dans une autre émission, dans 15 jours, la semaine prochaine. Eh bien, c'est nos amis de la librairie L'Inédit. Alors, à la semaine prochaine, Romu Ménage passe la parole à la pleine lune.
Romu, qui a mélangé de jour et de nuit. D'or dans leur plus grand délire n'approcheront jamais l'amour à mort caché dans ton sourire comme un chagrin discret et tous les mensonges qui peuplent les déserts de l'enfance perdue n'ont jamais brûlé assez au bout des fers pour vertige d'absence.